Que le Seigneur soit loué et remercié pour le privilège que nous avons d'être à nouveau ici, d'entendre sa parole et de nous laisser bénir à nouveau. Chaque fois que nous venons au service divin, nous sommes ici avec un désir profond dans notre cœur de faire une nouvelle expérience avec Dieu, de recevoir ce qu'il a promis. Car le jour où il y reviendra, nous ne voulons pas seulement être assis sous. Nous ne voulons pas seulement avoir été assis sous le coude de la parole de Dieu, nous voulons être prêts. Prêts à le rencontrer. Et quand on pense à ce que ressentiront ceux qui resteront, qui ont couru, qui ont suivi le Seigneur pendant de nombreuses années et qui n'ont pas atteint le but. On peut à peine l'imaginer. Et pourtant, il en sera ainsi. Les Saintes Écritures disent, les vierges qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Qu'est-ce qui fait partie de cette préparation? Quand sommes-nous prêts à rencontrer le Seigneur? Ce sont des questions qui doivent tous nous interpeller, nous occuper. Car nous savons qu'il y a d'innombrables personnes qui rêvent de l'enlèvement, qui chantent et qui prêchent sur l'enlèvement, qui, mais malgré tout, suivent leur propre voie et apportent leurs propres enseignements, qui n'ont même pas la bonne connaissance de Dieu et qui sont encore moins prêts aux yeux de Dieu. Mais tout cela ne nous concerne pas ce matin. Cela concerne d'autres personnes. La question est la suivante. Quel est notre état réel devant Dieu aujourd'hui? Pouvons-nous aller à sa rencontre? Nous avons entendu très clairement dans la prédication qu'il faut ces trois expériences. Une véritable justification par une foi biblique en Jésus-Christ, notre Seigneur, opéré par l'Esprit de Dieu. Pas seulement une foi parce que d'autres croient, mais une expérience très personnelle dans la foi. Une expérience avec Dieu sur laquelle nous pouvons regarder en arrière et dire « C'est là que Dieu m'a rencontré. C'est là que j'ai fait ma rencontre avec Dieu. Mon expérience qui a transformé ma vie, qui a influencé ma vie, qui l'a changé. Et ça, ce n'est que la justification. La deuxième expérience nous a également été clairement décrite, et les Saintes Écritures en parlent davantage que la première et la troisième. C'est la sanctification, dont il est dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il n'y a pas d'exception. Sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est une parole sérieuse. Qui sait ce qu'est la sanctification aux yeux de Dieu? Pas ce que nous pensons être la sanctification, mais ce que Dieu exige de moi et de toi. Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. » Que nous ayons un tel respect devant Dieu et sa parole, et cela pour tout ce qui y est écrit. Il y a suffisamment de gens qui prennent les raisins et laissent le gâteau. Nous devons, les raisins secs et laissent le gâteau. Nous devons prendre au sérieux chaque parole de Dieu et nous laisser imprégner par cette parole, par cette vérité divine. Et tout en fait partie. Même ce qui est écrit dans Jacques 5, ne parlez pas mal les uns contre les autres, bien-aimés frères, ne vous jugez pas les uns les autres, car le juge est à la porte. Ça, c'est Jacques 4, verset 11, et Jacques 5, au verset 9, en fait partie aussi. Ne soupirez pas les uns contre les autres, ne vous plaignez pas les uns contre les autres, le juge est à la porte, car le Seigneur est proche. Nous avons l'impression que nous sommes dans les vérités révélées et que nous y sommes sanctifiés. Mais cela ne suffit pas. Le témoignage global des Saintes Écritures, chaque parole de Dieu, même s'il est question que nous devons tenir notre langue en bride, sinon nous nous trompons nous-mêmes et notre culte et notre service divin est en vain. Il y a un si grand nombre de passages bibliques qui sont dans la parole de Dieu, dans lesquels nous devons être sanctifiés. Dans chaque point que Dieu exige de nous, nous devons être justifiés et sanctifiés devant le Seigneur. Le vieil homme n'y parviendra pas. Bien au contraire, nous dirons comment cela peut être possible. Mais alors nous levons les yeux vers le Seigneur et nous disons, Dieu fidèle, tu nous as fait grâce. Tu nous as donné une vie nouvelle. Tu as pardonné nos fautes. Nous sommes à toi. Nous sommes maintenant à ta disposition. Fais de nous ce qui te plaît. Avons-nous au moins ce désir profond en nous de plaire au Seigneur et de répondre à toutes ses exigences? Ici, nous avons tous écouté et lu dans Hébreux 12, verset 28. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, puisque nous devons recevoir un royaume inébranlable, soyons reconnaissants pour cela, car ainsi nous servons Dieu comme cela lui est agréable, avec crainte et avec piété. Verset 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Être reconnaissant est la condition préalable pour que nous puissions servir Dieu de tout notre cœur et avec sincérité. Si nous ne trouvons ou ne cherchons des reproches qu'en nous-mêmes ou chez les autres, nous n'avancerons pas. Nous devons devenir reconnaissants. C'est écrit ici dans Hébreux 12. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, puisque nous devons recevoir un royaume inébranlable, soyons reconnaissants pour cela. car ainsi nous servons Dieu, d'une manière qui lui soit agréable. La reconnaissance est le contraire du murmure, de la contestation. Et si nous considérons l'histoire du peuple d'Israël telle qu'elle nous est décrite dans 1 Corinthiens 10 et dans bien d'autres passages, nous devons dire qu'ils ont tous mangé de la manne, vu la colonne de feu, contemplé la gloire du Seigneur, bu au rocher spirituel, mais ils ont murmuré. Ils étaient mécontents et l'un a contaminé l'autre jusqu'à ce que Dieu doive finalement dire « Moïse, je vais détruire ce peuple et recommencer avec toi. » Moïse, faire un nouveau commencement avec toi. Deutéronome 9, 14, Moïse s'est avancé dans la brèche. Il s'est placé devant la face de Dieu pour le peuple. Oui, il s'est placé entre Dieu et le peuple et a dit, « Efface plutôt mon nom de ton livre, mais laisse ce peuple. » Exode 32, 32. Nous voyons les sentiments de Jésus dans cet homme de Dieu. Il aurait pu dire, « Oh, quelle idée merveilleuse. Oui, je serai enfin débarrassé de toutes ces souffrances. » Alors, il y aura un nouveau départ sans toutes ces vieilles choses. Non, pas comme ça avec Dieu, parce que nous voyons nos propres échecs et nos propres manquements de la même manière. C'est pourquoi nous ne nous arrêtons pas aux échecs et aux manquements des autres, parce que nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est pourquoi nous regardons au Seigneur qui nous a promis de nous donner un royaume inébranlable. Et le royaume de Dieu commence en nous puisqu'il est intérieurement en nous. Et ce n'est que lorsque le royaume de Dieu est en nous que nous serons dans le royaume de Dieu. C'est une vérité que nous ne pouvons ni négliger, ni ignorer. Il est dit ici au verset 28, parce que nous devons recevoir un royaume inébranlable. Hébreux 12, verset 28. Nous devons en être reconnaissants, car par cela nous servons Dieu, d'une manière qui lui est agréable. Donc, si nous voulons servir Dieu de la manière qui lui est agréable, ce n'est pas en murmurant, ce n'est pas en nous plaignant, mais avec un cœur reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour nous. Comprenons-nous cela? Nous voulons être agréables à Dieu et le servir. Voici ici la clé. La clé, être reconnaissant qu'il nous ait fait grâce et qu'il nous ait reçu dans son royaume, que nous puissions être sa propriété. Maintenant, il y a d'autres passages bibliques que nous voulons examiner. Mais il s'agit en fait de vivre ces trois expériences. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. De vraiment recevoir ces trois expériences. Et là, si tout le monde était d'accord, je dirais simplement que nous devrions prier. Simplement prier. Prier jusqu'à ce que chacun ait fait ces expériences-là avec Dieu. La pire chose qui pourrait nous arriver serait d'être assis sous l'écoute de la parole de Dieu, d'avoir été assis sous l'écoute de la parole de Dieu et de porter en nous l'espérance d'être avec le Seigneur et de se voir donc rester et ne pas prendre part à l'enlèvement. Je ne veux pas prendre cette responsabilité sur moi, car la prédication n'est pas liée à un métier, mais à un appel. Et Paul écrit que nous rendrons compte des âmes qui nous ont été confiées. Hébreux 13 et 17. Oh, avec quel sérieux alors devons-nous écouter la parole de Dieu et la prendre à cœur au point de trembler et d'être ébranlés au plus profond de nous-mêmes et de dire, Seigneur, où en suis-je et comment me situe-je spirituellement devant toi? Dans quel état je suis spirituellement devant toi? Comme nous l'avons déjà dit, le jugement des échecs des autres, qu'il s'agisse d'individus ou de mouvements spirituels ou de dénominations, etc., nous avons besoin d'une évaluation réelle de notre situation spirituelle et de notre état spirituel personnel devant le Seigneur et pas de celle des autres. Ça ne nous servira à rien. Et si nous tenons dans la foi et sommes reconnaissants pour ce que Dieu nous a déjà donné, il continuera à nous montrer et à nous indiquer le chemin du salut. Car c'est ainsi qu'il est écrit dans le psaume 50, verset 23, « Celui qui offre des actions de grâce en sacrifice me rend gloire. » Et ça, c'est le chemin pour que je lui fasse voir le salut de Dieu. Et c'est ce que nous aimerions voir, le plein salut, le plein évangile, la pleine restitution, restauration, le plein rétablissement de tout ce qui a été perdu. Il faut que la vie et la puissance divine reviennent dans tout ce que nous faisons. Car en vérité, l'époque dans laquelle nous vivons est grave. Et nous ne sommes pas de ceux qui fixent des temps pour le retour du Seigneur, mais nous ne sommes pas non plus de ceux qui disent « Mon Seigneur ne viendra pas avant longtemps ». Non, mais nous voulons rester sobres et clairs et attendre le retour de notre Seigneur. Mais comme une épouse parée, vêtue, c'est ainsi que nous voulons attendre. Et non comme ceux qui se tiennent ensuite devant une porte fermée. Toutes sont allées à la rencontre du Seigneur, les cinq sages et les cinq folles, tous ont tout attendu, ont pris leurs lampes, toutes se sont mises en route pour aller à la rencontre de l'époux. Bien-aimés, nombreux sont ceux qui font cela aujourd'hui, parmi ceux qui ont entendu le dernier message, et pourtant, les écarts, les déviements à droite et à gauche sont là, et il y a des querelles et des divisions, et ceci et cela, et l'unité est détruite. Le corps est déchiré, parce que chacun veut encore d'une manière ou d'une autre mettre son propre égoïsme et son propre programme dans le programme de Dieu. Tout cela doit cesser aussi. Nous devons nous présenter devant Dieu comme il a été dit autrefois dans la maison de Corneille, nous rassembler pour connaître ce que Dieu t'a ordonné de faire, de dire. non pas ce que les hommes ont à dire, non pas ce qu'ils pensent ou disent, mais la parole claire et vraie de Dieu. C'est ce que nous voulons écouter. Et c'est dans cette vérité révélée de la parole que nous voulons être sanctifiés et que nous voulons aussi être remplis du Saint-Esprit. Vraiment, comme nos frères et sœurs autrefois au commencement. Car voyez-vous, si nous attendons que les mêmes choses maintenant à la fin se produisent, qui se sont produites au commencement, alors à la fin, la même puissance de Dieu, le même Saint-Esprit, le même revêtement doit nous être accordé si les mêmes choses doivent se reproduire. Est-ce que nous comprenons cela tous? Pourrions-nous le faire par nos propres moyens, par notre propre force? Non. Si c'était le cas, nous ne parlerions même pas de ces choses. Mais comme nos frères ne pouvaient pas le faire eux-mêmes au commencement, mais comme notre Seigneur l'a dit, attendez à Jérusalem que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. L'Église que le Seigneur rassemble en ces derniers jours pour en faire un corps, un organisme vivant, cette Église doit être remplie de la vie divine, de la puissance divine. Et alors, alors, s'accomplit que ce n'est pas nous, mais c'est Christ en nous qui se révèle lui-même, qui ne parle pas seulement, mais qui peut aussi agir, qui peut vraiment révéler entièrement sa puissance de sauveur, sa puissance de guérison, sa puissance de libération, oui, qui pourrait vraiment manifester la puissance de l'Évangile. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 58, il est écrit au verset 1, Ésaïe 58, verset 1, « Crie de, à plein gosier sans t'arrêter, fais retentir ta voix comme une trompette. Reproche à mon peuple ses infidélités et à la maison de Jacob ses péchés. » Verset 2, « Il est vrai qu'il me consulte jour après jour et qu'il désire connaître mes voies comme s'ils étaient un peuple qui a pratiqué la justice et n'a pas abandonné le droit de son Dieu. Ils me demandent des jugements de justice. Ils attendent avec impatience la présence de Dieu. » Arrêtons-nous ici quelques instants. Ici, le Seigneur s'adresse à un peuple qui agit comme s'il n'avait pas dévié, comme si personne n'avait été lésé, comme si personne n'avait manqué, comme si tout était encore en ordre. Dieu est interrogé sur ses voies. Il y a un désir, comme il est écrit ici, au verset 1, « Reproche à mon peuple son infidélité. » Verset 2, « Il est vrai qu'il m'interroge jour après jour et qu'il désire connaître mes voies, comme s'ils étaient un peuple qui a pratiqué la justice et qui n'a pas abandonné le droit de son Dieu. » Nous penserions que si quelqu'un se présentait chaque jour devant Dieu en disant « Seigneur, quelle est ta voix? Quelle est ta volonté ?» Et pourtant, il se peut que Dieu voit clair dans notre jeu, que nous lui demandions « Quelle est ta volonté ?» en pensant que nous la connaissons déjà de toute façon. et que nous lui demandons, Seigneur, quel est le chemin que je dois suivre, mais que nous sommes déjà sûrs de marcher sur le bon chemin. Si bien que nos questions et notre façon de nous tourner ou de nous, oui, de nous tourner vers Dieu sont à demi-mot et ne correspondent pas à ce que Dieu voudrait qu'elles soient. Nous aussi, qui sommes déjà à la suite du Seigneur, nous devons, nous aussi qui suivons déjà le Seigneur, nous devons sans cesse nous demander avec un cœur sincère, oh Dieu, suis-je vraiment sur le chemin que tu veux emprunter avec moi? Sommes-nous déjà en tant que ton peuple là où tu veux que nous soyons et allions? Si nous étions d'avis d'avoir déjà tout vécu, tout expérimenté, d'avoir déjà tout reçu et de ne plus nous réunir que pro forma, que par formalité, pour offrir et prêcher, que Dieu pourrait-il penser de nous ou faire avec nous alors? Non, nous voulons admettre que certaines choses nous manquent encore et ne sont pas telles que Dieu les voudrait. Cela commence déjà par la reconnaissance pour ce que Dieu a déjà fait. Cela commence déjà en remerciant Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Mais cela ne s'arrête pas là. Mais le chemin du Seigneur doit nous être éclairé toujours plus clairement et nous devons toujours mieux comprendre sa volonté. Et notre relation avec notre Dieu doit devenir toujours plus profonde et intime. Parfois, notre vie spirituelle est si plate, oh, si plate. Il n'y a pas de profondeur spirituelle, pas de vie vraiment, une de vie divine, aucune trace de des bénédictions divines ne subsiste. À quoi sert notre confession de foi si Dieu ne peut pas se confesser? Et c'est là, à quoi sert notre témoignage si Dieu ne peut pas se témoigner? Et c'est là que réside notre échec et en même temps notre désir vers le Seigneur qu'il puisse nous amener à ce qu'il puisse se glorifier sur terre, c'est-à-dire à ce qu'il puisse arriver à ses fins en toi et en moi, que nous puissions prier avec un cœur sincère. Seigneur, fais apparaître que tu es Dieu et que nous sommes ton peuple. Que nous ne confessions pas seulement de bouche, mais qu'il puisse être révélé que le Seigneur est notre Dieu et que nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau de sa main, qu'il peut conduire, qu'il peut bénir, qu'il peut nourrir, oui, qu'il peut utiliser. Ici, dans ce passage de l'Écriture, cela va encore plus loin. Il est dit, le deuxième verset, « Attendant avec impatience la présence de Dieu. » Au lieu de reconnaître que nous manquons, et que nous avons des manquements, nous sommes saisis encore d'impatience. Et c'est là que réside le problème global de ces jours. Pourquoi les hommes fixent-ils sans cesse de nouvelles dates pour le retour du Seigneur? Pourquoi veulent-ils provoquer quelque chose? Pourquoi ils s'impatientent? Ils ne peuvent pas attendre l'heure de Dieu. Qu'a dit autrefois le Sauveur lorsque Marie vint lui dire, écoute, il leur manque du vin, dans Jean 2, verset 3. Il lui a dit, mes femmes, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Mon heure n'est pas encore venue. Le Seigneur a pourtant un programme si ferme que personne ne peut le modifier et nous voulons être insérés dans ce programme. Mais ce n'est pas en fixant certaines choses que nous y parviendrons, mais en étant affermis dans la grâce et dans les paroles de Dieu. Et c'est ce qui compte. Le royaume de Dieu est un royaume inébranlable et toutes ses paroles et promesses sont oui et sont amen. Les gens sont devenus impatients dans notre génération. Je n'oublierai jamais la fois où l'année 77, l'année 77 est passée et où les frères m'ont dit « Oui, le Seigneur est venu ». Et vous savez que de toute façon, je ne le crois pas parce que je ne peux que croire ce qui est écrit dans la Bible. Actes des Apôtres 1, verset 11, il est écrit « Car Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous, le même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Dans Actes 1, verset 11, cela est écrit, et pour moi, il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Et tout homme qui a l'esprit droit demeurera dans la véritable, le véritable évangile. Il ne s'écartera pas à droite ou à gauche, ne causera pas de trouble et ne tombera peut-être même pas sous l'influence d'autres esprits. Et cela s'est produit plus rapidement que certains ne l'ont supposé. Je vous le dis, je vous dis la vérité. Cette parole de Dieu est issue de l'Esprit de Dieu, est sortie de l'Esprit de Dieu. Celui qui sort de cette parole se place sous l'influence d'autres esprits, car cette parole vient de l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu nous maintient dans la vérité de la parole, et alors la vérité rend libre. Car l'Esprit conduit en effet dans toute la vérité. Ne vous impatientez pas, mais comme l'écrit Jacques, persévérez donc, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jacques 5, verset 7. Car vous avez besoin de persévérance. Hébreux 10, verset 36. Mais alors ne continuez pas à vous endormir et à vous tourner d'un côté à l'autre, mais soyez vigilants et dites, Seigneur, jusqu'où as-tu pu aller avec nous? Que veux-tu faire maintenant avec ton Église? Mais nous devons entrer dans ce pas spirituel, à marcher dans le même pas ensemble maintenant, spirituellement, dans le pas spirituel, devenir un seul cœur, une seule âme. Nous devons cesser de nous opposer les uns aux autres et parvenir à une collaboration avec Dieu et un soutien mutuel afin que l'Esprit de Dieu nous remplisse réellement et que Dieu puisse nous utiliser. C'est dans cette unanimité, union divine et spirituelle que résidera notre force avec Dieu. Qu'en pensez-vous? Si nous sommes ainsi unis, mais vraiment unis aux yeux de Dieu, pas seulement parce que nous l'appelons union, ou bien alors l'appelons unis, mais unis divinement, une harmonie divine, un enseignement divin, une insération dans les Saintes Écritures à tous les mystères de la parole et qu'ensuite nous soyons un seul cœur et une seule âme. Nous parvenions à cette unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Que pensez-vous lorsque nous élevons nos voix et prions dans une telle unanimité divine, dans une telle union divine, dans la volonté de Dieu, prions? Alors je vous dis que le lieu sera ébranlé et la puissance de Dieu sera manifestée parmi le peuple de Dieu, car c'est ainsi que Dieu a toujours témoigné de lui-même. Quand il y avait l'union, il n'y a pas un homme qui lit les Saintes Écritures et constate ce que Dieu a fait dans l'Église primitive en qui ne s'élèverait pas le désir et ne jaillirait pas le cri de l'âme. Oh Dieu, fais donc bientôt comme tu as fait autrefois. Donc, d'une part, la reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour et ensuite d'entrer dans le repos de Dieu, non pas dans le sommeil spirituel, mais dans le repos de Dieu, en nous reposant de nos propres œuvres et en entrant dans l'œuvre de Dieu qui s'est produite en Christ Jésus, notre Seigneur. Et nous réalisons alors que nous sommes nous-mêmes l'œuvre de Dieu, créée pour son honneur et sa glorification. Cela va encore plus loin ici. Et il est question du jeûne. Ésaïe 53, verset 3. Pourquoi jeûnons-nous et ne le vois-tu pas? Pourquoi nous mortifions-nous et tu n'y fais pas attention? Certaines choses sont faites et nous pensons que Dieu nous accordera alors toute son attention et il ne semble pas l'avoir fait. Et voici alors la question, pourquoi faisons-nous ceci, pourquoi faisons-nous cela, et pourquoi n'y vois-tu pas, pourquoi est-ce que tu ne le vois pas? Puis le texte poursuit, verset 3, réfléchissez bien le jour où vous jeûnez, vous vaquez à vos occupations et vous poussez tous vos gens au travail. Verset 4, réfléchissez bien, vous ne jeûnez que pour provoquer des querelles et des disputes et pour frapper à coups de poing. Vous ne jeûnez pas en ce moment pour que vos prières soient exaucées dans les cieux. Même le jeûne et la prière doivent être justes devant Dieu. Si quelqu'un jeûne par dogmatisme pour vouloir avoir raison, pour pouvoir à nouveau frapper du poing, alors nous pouvons nous épargner tout cela. Bien-aimés, pourquoi toutes ces choses sont-elles écrites? Dieu veut faire de nous des hommes qui jeûnent. Quand ils jeûnent, que cela soit correct. Quand ils prient, que cela soit correct. Quand ils prêchent, que cela soit correct. Que tout soit mis en accord avec Dieu selon sa sainte et précieuse parole. Ça, c'est le but ultime de la prédication, que nous soyons amenés en parfait accord avec Dieu. Nous sommes impatients que sonne l'heure où le Seigneur pourra se révéler. Nous l'avons encore constaté hier après-midi ici avec ce groupe de jeunes d'une vingtaine de personnes. Il y a bien une faim, mais les gens n'ont pas d'orientation. On associe des choses qui ne vont pas ensemble et on déchire ce qui va ensemble. Le Seigneur nous a aidés. Jusqu'ici, il nous a fait grâce et je voudrais insister sur ce point. Il nous a fait grâce, il nous a accordé un aperçu et une vue d'ensemble de son conseil de salut d'une manière telle qu'elle n'a jamais existé sous cette forme complète, si je puis dire ainsi. Mais tout cela doit avoir un but et aura un but, à savoir que le Seigneur nous obtienne finalement là où il veut que nous soyons. Un accord total avec lui et avec sa parole. Personne ne fait plus quoi que ce soit pour être vu ou entendu. Tout le monde se renie et dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'un regard de ta part. Vous l'avez déjà dit, je l'ai dit assez souvent. Si vous saviez tous ce que j'ai déjà dit au Seigneur, je ne sais pas si vous pourriez le comprendre. Qui peut se regarder avec complaisance? Le prophète de l'Ancien Testament ne dit-il pas déjà? Toutes nos preuves de justice, c'est comme un vêtement souillé. Qu'est-ce qui peut subsister devant Dieu? Nous sommes nés dans le péché, tous. Et le vieil Adam s'attache encore à nous si nous ne sommes pas attentifs et vigilants. Et comme il a été déjà dit précédemment, ce que nous sommes, nous ne le sommes par grâce. C'est pourquoi nous nous glorifions de la grâce de Dieu. Il est encore dit ici, verset 5, « Est-ce là un jeûne auquel je prends plaisir un jour où l'homme se mortifie vraiment? Je ne l'oublierai jamais. Je ne veux même pas nommer le mouvement. Mais chacun a son propre sac de toile et chacun à sa salière avec des cendres dedans. C'est un mouvement pentecôtiste. Ils ont des prophètes et tout ce qu'ils ont encore de plus. Et quand ça arrive, et si je ne l'avais pas vu moi-même, et si je n'avais pas été à cette réunion, j'aurais quand même du mal à le croire. Personne n'a le droit d'entrer dans la salle avec ses propres chaussures. Chacun doit laisser ses chaussures à l'extérieur. Et pour chacun, il y a ce sac de toile et les cendres dans la salière. Et puis, bien sûr, tout commence. Et il ne faut pas croire. Et je ne dis pas cela pour m'amuser. Je le dis à cause d'une profonde douleur de l'âme que des gens pensent pouvoir se présenter devant Dieu en pensant que maintenant, nous allons faire repentance, pénitence dans le sac et dans les cendres. Et ils trouvent toujours le passage biblique nécessaire pour cela, car il y avait là le prophète qui se repentait dans le sac et dans la cendre, et il pense devoir faire la même chose. Ici, le prophète dit, eh bien, bien sûr, ils n'ont pas trouvé ce passage biblique. Ésaïe 58, ici, le prophète dit, « Est-ce que c'est un jeûne si vous mettez des toiles de sac et vous priez dans la cendre? Est-ce que tu peux appeler cela un jeûne et un jour agréable au Seigneur? Est-ce que vous pouvez appeler cela un jeûne et un jour agréable au Seigneur? Lorsque vous laissez pendre votre tête comme un joug et que votre tête est ainsi de suite, regarde vers le bas. Non, pourquoi pas? Ce serait illustrer le découragement. L'humilité n'est pas pendant que la tête est baissée ou pendant que nous mettons nos pieds dans un sac. L'humilité est dans le cœur. Et Dieu veut que nous ayons cette humilité divine. Et notre Seigneur ne parle-t-il pas dans le sermon sur la montagne? Quand vous jeûnez, lavez-vous et oignez votre tête d'huile. Alléluia, gloire à Dieu. Cela témoigne du fait que nous croyons ce que nous prions pour faire confiance à Dieu afin qu'il nous l'accorde. D'une part, le cœur incliné. Et si ce n'était pas dit ici et que nous trouverions l'exaucement de Dieu en priant dans le sac, et la cendre, nous voudrions encore tous le faire. Mais ce n'est pas la voix de Dieu avec nous. La voix de Dieu avec nous est la voix de la foi et de l'obéissance afin que nous nous laissions mettre en accord avec lui et avec ses paroles en toutes choses. Peut-on appeler cela un jour agréable au Seigneur? Il est posé comme question ici. Un homme qui se mortifie et laisse pendre sa tête comme un brin de pinceau, qui s'enduit de toile de jute, qui prie dans la cendre. Peut-on appeler cela un vrai jeûne ou un jour agréable au Seigneur? Non. Dieu veut faire de nous des personnes humbles au plus profond d'elles-mêmes qui savent qu'elles dépendent de la grâce de Dieu et que tout bon don et parfait vient de Dieu. Mais tout se passe sur le chemin de l'obéissance de la foi. Si nous ne sommes pas dans la voie de Dieu, nous pouvons jeûner et prier la tête baisse, la tête basse, être dans le sac et dans la cendre. Cela ne servira de toute façon à rien. Et maintenant, voici ce qu'est vraiment un jeûne aux yeux de Dieu. Du verset 6. N'est-ce pas plutôt un jeûne, comme je l'aime, que de délier des liens injustes, de briser les liens du joug, de la servitude, de rendre la liberté à ceux qui ont été violés et de briser tout joug. Comparez ce passage avec Ésaïe 61, le verset 1. L'Esprit de Dieu, le Seigneur, est sur moi. Parce que le Seigneur m'a oint pour porter le message de joie aux malheureux, parce qu'il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la délivrance et à ceux qui sont liés le relâchement. Le relâchement. Verset 2, une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est le ministère qui doit être poursuivi aujourd'hui encore par l'Église maintenant. Les personnes qui sont liées, qui ne peuvent pas s'aider elles-mêmes, n'ont pas besoin de condamnation. Ils ont besoin d'une parole puissante de Dieu, dans laquelle la puissance de Dieu se manifeste et les liens sont brisés. Nous savons que lorsque Pierre était là-bas en prison ou que Paul était là, comme toujours, l'un des deux dans le bâton avec ses jambes ou ses pieds, et que soudain quelque chose s'est produit et qu'il a été libéré et a pu sortir. Il faut que quelque chose de divin vienne, quelque chose de plus fort que ce qui nous lie, que ce qui nous entrave, que ce qui nous empêche, ce qui nous retient maintenant sous son emprise, nous maintient sous son emprise. Et s'il s'agit de puissance de l'ennemi, nous l'avons souvent dit, il y a deux puissances, mais une seule, toute puissance. Et cela, nous le croyons de tout notre cœur et de toute notre âme. Il n'y a qu'un seul tout puissant. Et c'est là que Satan et toute son armée doivent s'incliner et se soumettre et reconnaître qu'il est vaincu et qu'il a perdu son droit sur les enfants de Dieu. Et que le Seigneur nous a rachetés et que nous lui appartenons et sommes sa propriété. Imaginez que vous achetiez une chose et que le propriétaire initial veuille encore faire valoir des droits et parler ici et là, etc. Et ce ne serait pas une bonne chose. Il y aurait des allers et retours. Non, dès l'instant où Dieu nous a rachetés en Christ, où il a payé le prix précieux, et là où le sang a été versé, Satan a perdu son droit sur nous. Et nous devons pouvoir le dire dans la foi, le prononcer de notre bouche. Car nous croyons avec le cœur et nous confessons ce que nous croyons avec la bouche. Si nous croyons avec le cœur et ne confessons pas avec la bouche, la foi n'est pas efficace. Car c'est de notre témoignage personnel de foi qu'il est écrit. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. La parole de notre Dieu doit devenir notre témoignage. Si nous traitons l'ennemi avec prudence, si nous ne croyons, les choses que dans notre cœur et ne les disons pas de notre bouche, il ne se passera rien du tout. Un homme qui doit ou veut expérimenter la grâce de Dieu doit ouvrir la bouche et parler à Dieu. Un homme qui est lié et qui peut croire pendant 100 ans dans son cœur, le Seigneur me délivrera. Cela prendra alors aussi 100 ans avant que cela n'arrive, même si nous le croyons. Mais à partir du moment où nous exprimons de notre bouche ce que nous croyons dans notre cœur, avec cette foi, prononcer cela et que nous disons, Seigneur, tu m'as délivré, je suis délivré, que ton nom soit loué, Satan a perdu son droit sur moi, je t'appartiens, ô Seigneur mon Dieu, car tu m'as racheté. Alors vous verrez, ce n'est plus une question. La victoire de Dieu sera simplement révélée, manifestée, et nous serons étonnés et penserons que oui, c'était aussi simple que ça. Alors ne nous fatiguons pas plus longtemps. Je sais combien un tel combat est difficile, et surtout lorsqu'il s'éternise, et combien il peut y avoir de désespoir intérieur et de détresse. Poursuivons notre lecture. Verset 6. Isaïe 58. N'est-ce pas plutôt un jeûne comme je l'aime, que l'on défasse des chaînes injustes, que l'on brise les liens du joug de la servitude, que l'on rend la liberté à ceux qui ont été violés, et que l'on brise tout joug. Pourquoi notre Seigneur a-t-il dit, je te donne autorité, procuration. Alors, à Pierre, et vous savez que ce n'est pas seulement à lui, mais à tous les disciples qui étaient présents après sa résurrection. Il a dit dans l'évangile de Jean, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Il y a là une parole qui est en effet mal comprise de beaucoup. Ceux-là à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et là, il n'y a pas besoin de formalité. Il suffit de proclamer l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Et on peut alors dire aux gens en toute confiance, tout homme qui croit, ses péchés lui sont pardonnés. Tout homme qui croit peut sortir librement. C'est écrit ici, Isaïe 58, 6. Libérez les violés et brisez toujours. Chers frères, chères sœurs, peut-être es-tu lié et tes mains ne sont même pas libres pour pouvoir te libérer toi-même. C'est d'ailleurs en grande partie ainsi que cela se passe. Alors nous sommes ici en tant qu'assemblée et nous voulons prier les uns pour les autres. S'il y a quelqu'un qui dit simplement, oui, je ne peux pas me détacher moi-même parce que je suis lié. Bien-aimé cœur, crie du fond de ton âme et ton Dieu qui est proche de nous tous fera l'œuvre en toi et tu seras étonné de la manière dont cela se passe. Cela va encore plus loin. alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta guérison fera de rapides progrès. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur formera ton arrière-garde. Ésaïe 58, verset 8. Cela aussi est une parole glorieuse. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Que dit le prophète Ésaïe dans le chapitre 60, verset 1? Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur a resplendu sur toi. Quelle est cette lumière? Car ta lumière est venue. Jean 1 nous le décrit clairement. La lumière brille dans les ténèbres. Jésus-Christ, la lumière du monde. Mais alors nous serons éclairés. Et le Seigneur parle également dans le sermon sur la montagne. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Ne remarquons-nous pas comment le Seigneur nous a inclus dans sa coopération en tant que son peuple, de sorte que nous ne sommes pas des gens à l'extérieur, des spectateurs, mais des participants et des personnes qu'il peut utiliser dans ce qu'il veut faire. Il dit encore, Ésaïe 58, verset 9, « Alors, quand tu crieras, le Seigneur te répondra. Et quand tu appelleras au secours, il dira, me voici, me voici. » Oh, cher cœur, si seulement nous pouvions tous vivre cela en action et en vérité. Si nous pouvions simplement suivre la voie de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit, de telle sorte que le bon plaisir de Dieu repose sur nous et que nous soyons assurés de son exaucement. Comme il est écrit ici au verset 9, « Si tu appelles alors, le Seigneur te répondra. » N'attendons-nous pas tous la réponse de Dieu? Nous l'attendons tous. Ici, le chemin nous est montré. Verset 9. Alors, quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Et quand tu crieras au secours, il dira, me voici. Maintenant, suis la condition. Si tu fais disparaître du milieu de toi l'asservissement, les doigts moqueurs et la tromperie, comme beaucoup pensent pouvoir se moquer, ils pointent du doigt d'autres personnes. Toutes les prières alors ne servent à rien. Absolument à rien. Ce que notre Seigneur a dit dans Marc 7, verset 7 est vrai. Mais c'est en vain qu'il m'adore. Alors, au-dessus de tout, il y a cette parole terrible. En vain. Chanter en vain. Prier en vain. Assister en vain à des services divins. En vain, en vain, en vain, en vain. Et ce qui se trouve alors au bout de tout ce qui est en vain, c'est le terrible désespoir. Ici, il nous est clairement dit comment cela peut arriver. Si tu es asservi, combien se laissent asservir spirituellement? On leur dit, si tu n'acceptes pas cet enseignement, tu n'en fais pas partie. Et on les a servis comme si un homme avait le droit ou l'autorité de contester le bonheur d'un autre, ou comme si quelqu'un était responsable de pouvoir rendre les autres bienheureux. Le salut vient du Seigneur, notre Dieu, et c'est indépendant de tous les hommes. C'est dommage pour tous ceux qui se laissent mettre sous tutelle et asservir spirituellement. Mais les gens veulent une telle chose. Ils ne supportent pas bien la liberté spirituelle. La loi doit toujours venir. N'avons-nous pas aujourd'hui entendu cela aussi? Dieu avait tout préparé pour le peuple d'Israël. Il lui avait fait des promesses et soudain ils veulent faire quelque chose d'eux-mêmes. Puis Dieu leur a donné tant de choses à faire qu'ils n'ont pas pu tout faire. Alors, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, Dieu a suivi un si beau chemin. Il n'y avait pas de tu dois. Il y avait la communion avec Dieu, les promesses et tout ce qui va avec. Si nous regardons l'Église du Nouveau Testament et en particulier cette époque, l'asservissement, les gens sont retenus en otage sous tutelle spirituelle et liés à des interprétations et à des propres raisonnements. Et puis aussi le fait de lever le doigt et de menacer du doigt, montrer les autres du doigt, eh bien, ils n'ont pas trouvé la liaison. Je renonce à toute connexion qui viendrait de quelqu'un ou même de l'autre côté, et où seulement des gens sont utilisés par l'ennemi. Je veux avoir jusqu'à la fin cette connexion divine, réelle, et elle sera toujours conforme à ses paroles, à la parole de Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu. La connexion divine, la liaison divine se fait toujours par l'Esprit et la parole de Dieu. Tout le reste n'est depuis longtemps que des interprétations qui se sont avérées fausses et on ne devrait pas y croire. Vous savez bien que lorsque toutes les dates sont passées, on a toujours mis en avant de nouvelles choses et les dates fixées sont passées. Sans que rien se soit passé. Et on a toujours mis en avant de nouvelles choses. Et la nouvelle détermination, elle ne fait qu'indiquer que les gens sont spirituellement malades. Ils ne peuvent pas céder eux-mêmes, car il est encore écrit que personne ne connaît les temps et les délais que Dieu a réservés à sa propre autorité. Acte 1, verset 7. Et voici que notre Seigneur lui-même dit que le Fils de l'homme ne le sait pas, ni les anges du ciel. Ni les anges du ciel. Matthieu 24, 36. Qui donc se présentera pour dire « Dieu nous l'a révélé ». Mais lorsque le mot « révélation » retentit, c'est ainsi que la chose est attractive. Mais qu'il puisse aussi y avoir un piège quelque part, c'est ce que peu de gens soupçonnent. Il est écrit sur verset 9, « Si tu fais disparaître du milieu de toi l'asservissement, les doigts moqueurs et la tromperie, verset 10, et offre à celui qui a faim ce que tu désires toi-même. Est-ce que nous voyons de quoi il s'agit? Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le leur d'abord. Isaïe 58, 10 avec Matthieu 7, 12. Ainsi, le verset 10 d'Isaïe 58, si tu donnes à celui qui a faim ce que tu désires toi-même, et si tu rassasies ainsi l'âme altérée, ta lumière resplendira dans les ténèbres et ton obscurité deviendra comme l'éclat du midi. C'est comme une recette globale pour parvenir à une vie réelle avec Dieu, à un accord avec lui et ses paroles. Ici, les détails nous sont énumérés. Nous devons nourrir les âmes affamées avec ce que nous désirons nous-mêmes. Oh, c'est là aussi une pensée très importante. Seulement ce que tu veux manger toi-même, et cela doit être la parole de Dieu, car il est écrit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Donc, ce que nous voulons qu'on nous serve là n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et la question se pose alors de savoir si nous avons le droit de donner aux autres quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Nous ne devons donner aux autres que ce dont nous avons nous-mêmes besoin pour rassasier notre âme. Et nous croyons que c'est la parole de Dieu. Comment pouvons-nous alors donner autre chose aux autres? Verset 10, Isaïe 58. Et si tu rassasies ainsi l'âme découragée, ta lumière brillera dans les ténèbres et ton obscurité deviendra comme l'éclatant midi. Oui, il se peut que certaines choses ne soient pas encore aussi claires que nous le souhaiterions et que nous aimerions voir. Pour cela aussi, le chemin est indiqué ici. Notre Dieu ne nous a laissés dans l'ignorance sur rien. Au contraire, tout est déjà écrit ici. Et l'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Au verset 11 de Ésaïe 58, maintenant, verset 11. « Le Seigneur te conduira en tout temps. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Il fortifiera tes membres et tu seras semblable à un jardin bien arrosé, à une source d'eau dont les flots ne trompent point. » Dont les flots ne trompent point. Alléluia. Gloire à Dieu. Que dit notre Seigneur dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, du verset 36? Que l'eau devienne en vous une source. Notre Seigneur Dieu veut répandre l'Esprit. Une source doit naître. Et nous devons ressembler à un jardin bien arrosé. Comme c'est beau et quelle est belle et grande la différence entre une sécheresse où tout baisse la tête, se dessèche et se fane, et un jardin bien arrosé où tout est vert et fleuri. Cela doit faire partie de la restauration de toutes choses, le rétablissement de toutes choses. Que le Seigneur fasse jaillir une source en Sion. Pourquoi l'Ancien Testament donne-t-il l'exemple de la source dans le temple et du fait que ce fleuve jaillit et de dessous le seuil, et cela de dessus le seuil du temple? Ésaïe 47, 1. L'eau n'entre pas dans le temple, elle sort du temple. Alléluia! Gloire à notre Dieu! Le Seigneur a de grands projets avec son peuple. Mais nous devons nous y préparer, avoir l'esprit et le cœur disposés et dire: Seigneur, mon Dieu, aie pitié de nous, transforme-nous, donne-nous un cœur à ta gloire et à tes louanges. Et le Seigneur te guidera en tout temps. Est-ce cela ce que nous voulons, que le Seigneur nous guide tout le temps? Et le deuxième point, et que ton âme se rassasie même dans les lieux arides. Combien habitent ici ou là et n'ont pas la possibilité de communion, et pourtant ils ne mourront pas de faim. Leur âme se nourrit de la nourriture de notre Dieu. Ils ont part à la parole du Seigneur et leur âme s'en nourrit. Il est dit plus loin, verset 10, « Alors ta lumière brillera dans les ténèbres et tes ténèbres seront comme l'éclat du midi. » Verset 11, « Et le Seigneur te conduira toujours et il rassasira ton âme comme ton âme même dans les lieux arides, et il fortifiera tes membres de sorte que tu seras semblable à un jardin bien arrosé et à une source d'eau dont les flots ne trompent pas. Ne trompent pas. Dont les flots ne tarissent pas. J'ai lu dans la Bible, hein. Alléluia, gloire à Dieu. Pouvons-nous croire cela? Pouvons-nous nous laisser sanctifier par cette vérité? Pouvons-nous dire oui à chaque phrase, à chaque parole lue? Car ce n'est que par l'approbation intérieure que nous devons avoir dans notre cœur que Dieu peut réaliser sa parole que nous avons entendue. S'il y a la moindre résistance, et que nous faisons des allers-retours, il n'y a pas de progrès avec notre Dieu. Nous devons pouvoir dire oui à chaque parole, même si elle nous frappe comme un marteau, et le dire dans notre cœur fidèle. Seigneur, tu as raison dans tout ce que tu dis. De notre côté, c'est la faute et l'échec, la honte. Nous avons fait du tort. Nous t'avons fait du tort. Tu as raison en tout et nous venons à toi. Nous nous mettons à ta disposition. Ici, il est dit, au verset 11, est fortifié. Fortifie tes membres, que nous le fassions physiquement ou spirituellement, les deux à la fois, cela nous fera du bien d'être à nouveau un peu mieux physiquement, mais spirituellement aussi, bien sûr. Nous aimerions que tous les membres du corps du Seigneur soient bien, bien irrigués, bien irrigués, oh, abreuvés, qu'il y ait une source de Dieu, comme il est écrit, qu'il fera jaillir une source. Et nous l'avons souvent chanté, un fleuve se déverse comme une inondation puissante, comme un fleuve puissant. Ainsi, un jardin bien arrosé ressemble à une source d'eau. Je ne peux pas m'en empêcher. Nous devons ressembler à une source d'eau dont les flots ne trompent pas et ne tarissent pas. Pas seulement pour aller chercher de l'eau quelque part, mais comme il est dit dans Jean 4, verset 14, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. C'est ce qu'a dit notre Seigneur. Et il dit, Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, comme l'Écriture l'a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Bien-aimés, nous devons commencer à croire lentement, sinon Dieu ne pourra pas avancer avec nous. Et si nous acceptons cela dans la foi de cette manière et que nous disons toujours, « Oui Seigneur, c'est ainsi, mon Dieu, je te remercie. Tu nous as enseigné et montré le chemin. Rends-nous maintenant volontaires et prêts à suivre ce chemin que tu nous as montré. » Nous y voilà. Maintenant dans Ésaïe 58, verset 12, « Les tiens rebâtiront les ruines antiques. Tu relèveras les fondements de beaucoup de familles anciennes. » Et on t'appellera le maçon des fissures, le restaurateur des routes, habitable. Cela aussi est lié au thème de la restitution, de la restauration, du rétablissement. Si toutes les choses précédentes se réalisent, alors les anciens lieux de ruines seront reconstruits. De même que le peuple d'Israël est revenu de la captivité de Babylone et a reconstruit le temple et que le Seigneur a pu se glorifier, de même l'Église du Nouveau Testament revient de toute la captivité de Babylone et est reconstruite en temple de Dieu, en habitation de Dieu, en esprit pour offrir des sacrifices spirituels au Seigneur. 1 Pierre 2, 5. Toutes les fondations seront de nouveau élevées. Verset 12, comme il est écrit, tu relèveras les fondements de beaucoup de familles anciennes et on t'appellera le maçon des fissures, le restaurateur des routes habitables. Que Dieu nous fasse vraiment grâce à tous et nous aide selon la parole de l'Écriture. Aide-moi, Seigneur, et je serai aidé. Guéris-moi, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Jérémie 17, verset 14. Notre Dieu est un Dieu glorieux, et ce qui est beau dans sa parole, c'est qu'elle est vraie. Hallelujah! Ce qui est beau dans cette parole, c'est qu'elle est vraie. Que nous pouvons y croire. Oh, si ta parole n'est plus valable, sur quoi ma foi reposera-t-elle? Ce qui m'importe, ce ne sont pas mille mondes, mais seulement ta parole. De faire, de mettre en pratique ta parole. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Bien-aimé, Est-ce que Dieu a pu nous parler aujourd'hui avec engagement, avec obligation, de manière contraignante? A-t-il pu nous parler? Sommes-nous prêts à traverser ce chapitre en priant chacun de notre côté et en disant, Seigneur, donne-moi de comprendre, éclaire-moi, fais-moi savoir ce que je dois faire. Montre-moi le niveau, ainsi de suite. Et vous verrez que Dieu fera en sorte que tous ceux qui sont sincères y parviennent. Il viendra à notre rencontre et sa droite salvatrice sera élevée. Et la droite du Seigneur n'a pas seulement donné la victoire, elle l'a fait advenir. Et à la fin, Dieu couronnera majestueusement l'œuvre de la rédemption comme elle en est, comme elle en est digne de lui. Loué soit notre Dieu aussi en ce jour. Amen. Levons-nous et prions. Prions tous ensemble. Ô Dieu, Seigneur fidèle, ensemble nous venons devant toi, devant ta sainte face, ô Seigneur. Nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Seigneur bien-aimé, nous voyons tous nos manquements, mais nous te voyons comme le véritable, le fidèle qui a dit, même si vous devenez infidèle, je resterai fidèle. Sauveur bien-aimé, la fin de toutes choses est venue sur nous. L'amour se refroidira chez beaucoup, mais tu as une église reconstruite sur le fondement des apôtres et des prophètes, une église dans laquelle tu fais jaillir une source de l'eau vive, une église semblable à un jardin irrigué qui refleurit dans ta sainte présence. Seigneur bien-aimé, apprends-nous à prier comme tu le souhaites, comme cela t'est agréable. Apprends-nous à jeûner comme tu le souhaites, comme cela t'est agréable. Apprends-nous en toute chose, Seigneur fidèle, à suivre le chemin que tu veux que nous suivions. Seigneur bien-aimé, du fond de mon cœur, je te consacre ma vie et je te dis, je suis prêt à suivre ton chemin. Dieu fidèle, rends-moi obéissant. Fais en sorte que toutes choses se déroulent selon ton conseil et ta volonté et que ta puissance se manifeste parmi ton peuple afin que ceux qui sont liés puissent être libres, libérés, délivrés. Et quelle que soit la nécessité, Seigneur fidèle, en ce moment même, nous approuvons tes paroles, disons, Seigneur, tu m'as racheté, tu m'as délivré, je l'accepte avec foi. Satan, éloigne-toi de tous ceux qui sont la propriété du Seigneur. Ô Dieu, nous te prions ensemble dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Fils de Dieu qui a souffert, qui a été crucifié, qui a été enseveli, qui est descendu aux enfers pour tout vaincre, la mort, Satan et l'enfer, et qui est ressuscité le troisième jour. Que la victoire divine se manifeste pleinement au sein du peuple de Dieu. Seigneur, mets-nous en parfait accord avec toi et avec tes paroles. et unis-nous les uns aux autres dans ton amour divin. Que personne n'étende plus, ne pointe plus du doigt, ne menace plus. Seigneur, circoncis nos langues, purifie nos cœurs et donne-nous des pensées comme celles que tu avais, des sentiments comme tu avais. Fais de nous des gens qui font la paix, artisans de paix, qui procurent la paix. Ô Dieu fidèle dans les cieux, nous avons tous été négligents et nous manquons de la gloire que tu accordes. Mais nous sommes ici pour prendre de ta source grâce et miséricorde, pardon et plein salut. Seigneur, je revendique au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que tout ce que le Fils a affranchi, son exemple de droit, sont réellement libres. Alléluia. Louange et gloire à toi. Car l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu le Seigneur qui a inspiré la parole est ici pour réaliser la parole dans la foi chez ceux qui l'ont reçue et pour en faire une réalité divine. Seigneur, nous te louons et nous te remercions. Nous t'adorons. Alléluia. Louange et gloire à toi. Parce que nous croyons, nous le prononçons. Seigneur, tu l'as accompli. C'est toi qui l'as accompli. C'est accompli. Je suis racheté. Je suis délivré. J'ai reçu le pardon. Seigneur, je t'appartiens pour le temps et pour l'éternité. Sauveur bien-aimé, fais-moi et fais-nous tous participer à ce que tu fais actuellement. Seigneur, que ta parole soit glorifiée et confirmée et que la même chose s'applique à ton nom. Que ton nom soit honoré et glorifié par la confirmation de ta parole et que ton peuple entre en possession de tout ce que tu as promis. Je te remercie que la foi vienne de la prédication et la prédication vienne de la parole de Dieu. Et je te remercie aujourd'hui en ce lieu de ce que ta parole que nous avons contemplée ici aujourd'hui ne reviendra pas à vide à toi, mais qu'elle accomplira sur nous tous ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous t'en remercions et louons ton nom. Ensemble, nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Crée tout en nous et accomplis par nous ce que tu as décidé de faire. Bénis ton peuple qui t'adore tout entier, tous nos frères et sœurs, qu'ils soient ici ou qu'ils vivent dans la dispersion. Seigneur, nous te remercions de connaître les tiens, de ce que tu connais les tiens, et de les conduire jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Encore une fois, nous te disons un grand merci pour ta parole dans ce service divin. Que ton nom soit loué. Alléluia. Amen.